closer.
Au sommaire de ce 10e numéro du Radioblog de Québec Presse. Bien entendu, nous reviendrons sur l'arrestation de Jonathan Bété, mais aussi les raisons qui pourraient faire avancer le dossier de Cédrica Provencher. Nous parlerons également de Nathalie Petrovski, qui est en passe de devenir la cheerleader en chef de notre selfie PM, j'ai nommé Justin Trudeau. Nous parlerons également de nos amis de la radio de Radio-Canada et en particulier de Joël Le Bigot qui nous parle de réchauffement climatique. Pour finir, un hommage à celui qui est disparu en fin de semaine. Je veux parler de l'ancien joueur de hockey devenu chansonnier, le regretté Bob Bissonnette. Bonjour, mon nom est Jean-Philippe Rousseau et je vous souhaite la bienvenue à ce 10e épisode du Radioblog de Québec Presse. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue donc à ce 10e épisode du Radioblog de Québec Presse. J'espère que vous avez passé une belle semaine et puis que vous avez passé aussi une belle fin de semaine de la fête du travail. Quand on y pense bien, c'est tout de même la dernière longue fin de semaine de l'été. Donc j'espère que vous en avez bien profité. En plus, il a fait beau, il a fait chaud. Bref, tout ce que l'on espère pour une fin de semaine de 3 jours. Comme je l'ai dit en introduction, on va revenir en long et en large sur l'affaire qui a secoué le Québec ces derniers jours. Je veux bien entendu parler de l'arrestation de Jonathan Bété lundi à Trois-Rivières. Et pour commencer, je vais faire quelque chose que je ne fais jamais. Je vais vous conter une anecdote. Une anecdote personnelle. C'était il y a quelques années, j'étais avec une connaissance à Trois-Rivières, et puis on était en char, on se baladait dans la ville, et on parlait de choses et d'autres. Puis à un moment donné, la personne avec qui j'étais m'arrête net dans ce que j'étais en train de dire, et puis me dit « Regarde, c'est ici que travaille celui qui a enlevé Cédrica Provencher. » J'étais comme « Imaginez-vous à ma place, on n'avait pas encore découvert les ossements de Cédrica. Il y avait, je peux pas dire qu'on était au point mort, mais en tout cas, on avait très peu d'informations sur l'avancée de l'affaire Cédrica Provencher. Et on m'amène ça comme un cheveu sur la soupe. J'étais comme assommé. Évidemment, j'ai demandé des explications, un peu plus de détails par rapport à ce qu'elle venait me dire, mais. De ce que je comprenais, c'était quelque chose qui était su déjà à l'époque par, c'est difficile de sortir un chiffre, mais je vous dirais une large majorité de la population de Trois-Rivières. À Trois-Rivières, puis je l'ai découvert par la suite en faisant des recherches sur Internet, c'est très facile. À Trois-Rivières, c'est un peu comme la personne dont on ne prononce jamais le nom, mais que tout le monde connaît. On l'appelait par des surnoms, Joe Acura, on l'appelait aussi par ses initiales, JB. Il y avait plusieurs, l'homme à la cura rouge, etc., etc. Et en faisant donc des recherches sur Internet, je voyais effectivement qu'il y avait quelqu'un qui pouvait être facilement identifiable avec un peu de recherche et qui était a priori sous la lampe, sous le projecteur de la Sûreté du Québec par rapport à l'affaire Provencher. Mais là, je me disais en moi-même, l'enlèvement a eu lieu en 2007, puis là, plusieurs années après, il n'y a toujours rien. Puis comme je vous le disais tantôt, c'était une affaire que je considérais à l'époque comme au point mort. Le pire, c'est que, en fouillant un peu, je vous l'ai dit, sur Google, entre autres, on arrivait à retrouver des photos de l'individu suspecté. Et puis, j'insiste encore, aujourd'hui, il est suspecté. C'est un témoin d'intérêt pour la Sûreté du Québec. Ce n'est en aucun cas quelqu'un qui est même accusé. Puis encore moins coupable. Pour l'instant, il n'y a aucun tribunal qui a annoncé, dans le fond, qu'il était coupable. Donc, sa photo était facilement trouvable sur Internet. C'est quelqu'un qui, puis on l'a vu ces derniers jours, c'est pas le gros dégueulasse que l'on voit habituellement quand on parle de pédophile et que l'on présente devant la justice. Tu sais, généralement, ces gens-là ont ils ont quasiment le mot pédophile marqué sur eux. Genre d'individu la cinquantaine, bedonnant, pas très propre sur eux, et qui, je veux dire, c'est le genre d'individu, tu changerais presque de trottoir en le croisant. Jonathan Bété, c'est pas ce genre-là. Et c'est peut-être ça le gros problème, c'est quelqu'un qui, quand on l'entend, il y a une très courte entrevue, enfin on peut même pas appeler ça une entrevue, mais Jean-François Guérin en 2011 était venu à sa rencontre à la sortie de son travail, et la façon dont il se comporte, la façon dont il répond, on va l'écouter cet extrait d'ailleurs tantôt, montre que c'est quelqu'un qui est pas idiot, là, puis qui est même intelligent, qui est manipulateur, puis ça, il y a beaucoup de gens qui ont interrogé des pédophiles, qui les ont rencontrés en prison, entre autres, je sais que Paul Arcan en parle régulièrement, il le dit, les pédos, c'est les pires manipulateurs qui ne peuvent pas exister sur Terre. Et c'est d'ailleurs grâce à ça, entre guillemets, grâce, là, qu'ils obtiennent ce qu'ils désirent. C'est parce que, justement, ils arrivent à manipuler les autres, leur entourage, mais également leurs victimes. Donc, on va revenir sur les événements de lundi. Puis, sérieusement, puis moi, si je l'ai ressenti, j'imagine ce qu'ont pu ressentir les trifluviens et surtout l'entourage de Cédrica Provencher, ce qui s'est passé lundi, quand le nom Emballage Bété est ressorti dans les médias, ça a été, je vous jure, comme un soulagement. Parce que, je vous disais, ça fait des années que je sais, et que tous les trifluviens savent, puis je pense aussi les habitants de la Mauricie, en une grande partie, savent, connaissent le nom de ce témoin d'intérêt dans l'affaire de Cédrica Provencher. À Trois-Rivières, on savait que le seul individu qui avait refusé le polygraphe et qui avait refusé de vraiment collaborer à 100% avec les enquêteurs, c'était Jonathan Bété, ancien propriétaire d'Acura Rouge. Après, il y a beaucoup de choses qui circulent par rapport à cette Acura Rouge. A priori, vu qu'il n'y a rien d'officiel, je vais employer beaucoup le conditionnel. Mais après avoir été interrogé par la police et puis donc avoir refusé de collaborer, il a été interrogé, il a été rencontré. Je pense en 2008, donc quelques mois après la disparition de Cédrica Provencher, il a été rencontré par la police, et puis ça, c'est très important pour la suite, et ça vient contredire certaines choses qu'on a entendues la semaine dernière. Une rencontre avec la police, c'est pas un interrogatoire. Une rencontre, c'est dans le fond la personne qui, de son propre bien vouloir, dans le fond, de son propre chef, veut bien collaborer avec la police. Sauf que la collaboration a été au strict minimum dans le cas de Jonathan Bété. Comme je vous l'ai dit, la Sûreté du Québec lui a proposé un interrogatoire polygraphique, c'est-à-dire de mettre l'appareil, là, le détecteur de mensonges, comme on l'appelle vulgairement, pour, comme tous les autres propriétaires d'Acura Rouge qui étaient sous le projecteur de la Sûreté du Québec, eh bien, de s'innocenter. Il a refusé. Quelques semaines après, il l'aurait fait nettoyer à fond. Tu sais, je parle pas du petit nettoyage que l'on fait au garage. Là. Non, je parle d'un nettoyage de grand luxe, nettoyage à fond, à l'intérieur, à l'extérieur du véhicule. Et il se serait débarrassé de la voiture, a priori, aux États-Unis. Ça aussi, c'est étrange. Ça fait pas de lui un coupable, hein, encore une fois. Mais le comportement est étrange. Donc, de savoir lundi que des policiers, puis ils étaient nombreux, hein, ils étaient une soixantaine sur trois résidences, que des policiers étaient chez Emballage BT qu'ils avaient procédé à une arrestation, je me suis dit, après toutes ces années, ouf, enfin, le projecteur est sur lui, mais cette fois-là... c'est beaucoup plus sérieux. On parle d'une arrestation. Très vite est sortie la nouvelle comme quoi il s'agissait d'une affaire de pornographie juvénile. Je me disais en moi-même, bon, bah, c'est un début, c'est peut-être le commencement de quelque chose. Et ce qui était aussi rassurant, c'est de voir que les trois résidences, bah, en tout cas deux résidences et son lieu de travail... ont été perquisitionnés par la Sûreté du Québec. Donc on sentait que ça avançait. On ne pouvait pas donner son nom encore. Lundi dernier, il fallait qu'il comparaisse devant le juge. Et puis, mais je vous dis, assez rapidement, les premières photos que l'on voyait circuler sur Internet montraient bien la face de Jonathan Betté. Pour ceux qui connaissaient, pour ceux qui l'avaient déjà vu en photo sur Internet, ça faisait absolument aucun doute. Et ça, c'était bon, parce qu'on avance encore un peu sur... Dans cette affaire, on avance. On sent que ça bouge. Comparution mardi, donc à Trois-Rivières devant le juge, et puis il a été inculpé, il a été accusé de six chefs d'accusation. Je vais vous les dire rapidement. Ben, il a dû donner son passeport, évidemment. Et puis, il a été remis en liberté en échange du paiement d'une caution de 5 000 $. Donc, les chefs d'accusation, c'est deux chefs pour avoir accédé à de la pornographie juvénile, deux chefs pour possession de pornographie juvénile, un chef d'accusation pour avoir rendu accessible et un dernier pour possession de pornographie juvénile en vue de transmettre, de distribuer et de vendre ou de l'exporter. Les faits se seraient produits entre le 4 novembre 2009 et le 30 septembre 2013, donc c'est très très précis. Bon, une première question que je me suis posée, et puis je pense que vous autres aussi vous vous l'êtes posée, des faits produits entre, dans le fond, novembre 2009 et septembre 2013, on est rendu en septembre 2016, pourquoi la police a attendu aussi longtemps pour mettre la main dessus? Autre chose, là, de ce que l'on sait, on parle de 2000 fichiers de pornographie juvénile impliquant des enfants de 8 à 12 ans. Donc là, l'excuse de dire, par exemple, « Ah, je savais pas que c'était des mineurs parce qu'ils avaient 14-15 ans, vous savez, bien maquillés, on peut faire beaucoup de miracles avec le maquillage de nos jours. » Là, on parle de 8 à 12 ans. Là. Il n'y a absolument aucun doute. Ils le savaient. Et a priori, de ce que l'on comprend des chefs d'accusation, il a même tenté de vendre ou de distribuer, en tout cas, de mettre à disposition d'autres personnes ces fichiers de pornographie juvénile. C'est très grave. Hein. C'est pas juste des images ou des vidéos. C'est très grave. À un moment donné, il y a des gens qui ont abusé d'enfants de 8 à 12 ans et qui ont fait des fichiers vidéo ou photos. C'est ça qui est très grave. Est-ce que ça me surprend qu'il ait été remis en liberté? Bah, ça me déçoit, évidemment, comme ça a déçu, je pense, beaucoup de monde. Par contre, malheureusement, pour quelqu'un qui n'a pas d'antécédent judiciaire, c'est malheureusement ce qui se passe généralement. Malgré tout, quand on écoute les commentateurs judiciaires, et puis entre autres Claude Poirier, et puis je sais, j'ai reçu... j'ai reçu au moins un message concernant l'article que j'ai rédigé sur Québec Presse, parlant de l'affaire BT. Puis quelqu'un me reprochait de parler d'un has-been, de l'has-been que pourrait être Claude Poirier. Je voudrais profiter pour faire une petite parenthèse. Claude Poirier, il a peut-être ses défauts. Par contre, c'est quelqu'un qui a été impliqué dans l'affaire Cédrica Provencher dès le début. En 2007, avec les enquêteurs de la Sûreté du Québec, avec la famille de Cédrica Provencher, il a été très impliqué dans cette affaire. Il connaît bien des choses. Puis, encore une fois, malgré ses défauts, Claude Poirier est toujours pas mal plugué. Et puis, je pense qu'on peut encore... tu sais, il n'y a rien de ce qu'il a pu dire par rapport à cette affaire qui sortait complètement de nulle part. Il est comme nous tous. Il y a des zones d'ombre, il y a des choses qu'il ne peut pas dire, il y a des choses qu'il a vues, en particulier, peut-être, on y reviendra tantôt, le lien qu'on peut faire entre le père et le fils. Le père, selon moi, est peut-être la personne qui pourra être accessoirement accusé dans l'avenir par rapport à l'affaire Cédrica Provencher. Mais on y reviendra peut-être. On va, je vous l'ai dit tantôt, on va écouter un extrait audio de Jonathan Bété. C'était l'émission JE avec Jean-François Guérin. Et c'était à l'époque, donc en 2011, novembre 2011, si mes souvenirs sont bons, où on parlait évidemment de l'enquête, de l'avancement de l'enquête, et puis on parlait de l'Acura rouge, la fameuse voiture qui aurait été vue sur les lieux de la disparition de Cédrica. Et il y avait donc, on parlait d'une personne d'intérêt, on pouvait pas citer son nom évidemment à l'époque, et on pouvait pas le montrer en image claire, dans le fond. On parlait donc d'un sujet d'intérêt de la Sûreté du Québec, qui avait refusé le polygraphe et puis qui refusait, dans le fond, de collaborer avec les enquêteurs. Et Jean-François Guérin était allé à la rencontre de cet individu. L'image avait été floutée à l'époque. Écoutez, puis c'est sûr que l'image est encore plus parlante, mais on va revenir là-dessus juste après.
Je peux-tu te parler de Cédrica Provencher?
Pas du tout.
Pourquoi? Hein? Pourquoi je peux pas t'en parler?
Parce que je suis pas intéressé par ça. Pour moi, c'est de l'histoire ancienne.
C'est de l'histoire ancienne?
Absolument.
Dans le sens que...
Bonjour, M. Guérin.
Mais pourquoi?
Écoutez, ça a affecté ma vie pendant 3 ans. Je préfère pouvoir tourner la page et passer à une autre histoire.
Pourquoi ça a affecté votre vie?
Monsieur,
pourquoi? Non, mais pourquoi?
Monsieur, ouais. C'est terminé. Mais j'apprécierais avoir la paix par rapport à cette histoire. Ça l'a affecté, j'espère que vous comprendrez.
Ouais, je comprends, mais il me semble que l'histoire est pas claire, non?
Moi, je trouve qu'on en apprend beaucoup. Surtout sur les images, mais aussi au niveau audio, on en apprend beaucoup sur le personnage Jonathan Bété. Vous l'avez entendu, il faut être honnête, c'est quelqu'un qui paraît tout à fait normal, qui paraît même très sensé, très intelligent. Après tout, il est quand même il était le président de la compagnie Emballage Bété jusqu'à ce qu'il se fasse congédier dans le fond. A priori par sa propre famille, par son père principalement. Mais c'est quelqu'un qui a l'air tout à fait sensé. Puis, comme je vous l'ai dit, quelqu'un qui n'est pas un imbécile. Il y a des choses qui sont encore plus intéressantes à voir en image. Il y a surtout deux choses. À un moment donné, assez rapidement, il appelle d'ailleurs le journaliste Monsieur Guérin, il l'appelle par son nom, donc il montre qu'il le connaît, puis qu'il montre un certain respect en l'appelant Monsieur Guérin. Il lui tend la main pour lui serrer la main d'ailleurs en même temps, chose que le journaliste fait. Et puis, peu de temps après, Jonathan Bété pose sa main sur l'épaule de Jean-François Guérin. Ça, c'est deux gestes, je trouve, qui sont très révélateurs. Je sais bien que le non-verbal, il y a des gens qui n'y croient absolument pas. Il y a des exagérations des deux bords. Il ne faut pas juste voir le non-verbal, mais c'est une erreur aussi de rejeter ça d'un bloc. Je pense que ça fait partie d'un tout. serrer la main, vouloir serrer la main de son interlocuteur, mais surtout de poser la main sur l'épaule de son interlocuteur, c'est un peu un signe de « on va se calmer ». Tu sais, on fait ça lorsque on veut calmer quelqu'un, mais c'est un signe aussi qui est un signe amical. On ne fait pas ça avec n'importe qui. Toucher physiquement une personne, c'est un geste de proximité. Donc, il parle très poliment, avec respect, avec Jean-François Guérin. Il l'appelle par son nom, il lui serre la main, il lui touche l'épaule. Alors qu'a priori, jusqu'à preuve du contraire, les deux personnes ne se connaissent pas. C'est donc un signe de manipulation, puisqu'il fait à quelqu'un qu'il connaît pas, il a des gestes amicaux. Il veut absolument le calmer. Le ton de la voix, le ton est également très calme. Il aurait pu très bien balancer une coupole de sacre et puis, à la limite, pousser d'un geste le journaliste en lui disant « Hey, je vais essayer de rester poli, mais laisse-moi tranquille. Moi, j'ai mes affaires à faire, je m'en vais, bye. » Maintenant, on peut revenir sur ce qu'il a dit. C'est de l'histoire ancienne. J'ai tourné la page ou quelque chose comme ça. C'est assez étrange. Hein. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui est soupçonné d'avoir un lien avec l'enlèvement et donc avec le meurtre. À l'époque, on ne le savait pas encore. On avait des doutes, évidemment, mais on ne le savait pas. Il n'y avait pas de confirmation. Vous êtes suspecté d'avoir un lien avec l'enlèvement et le meurtre d'une fillette de 8 ans, 9 ans. 9 ans. Comment vous vous défendez? Vous vous dites c'est de l'histoire ancienne, j'ai envie de tourner la page, ça a eu trop de répercussions dans ma vie personnelle, parce que dans le fond c'est ça que ça veut dire, hein. Les policiers ont essayé de l'interroger, ont essayé d'en savoir plus, et puis ça l'a embêté, le pauvre. Je sais pas, moi personnellement, peut-être que je réagis mal, mais personnellement, je dirais non, j'ai absolument rien à voir là-dedans, là, croyez-moi. Et puis, j'espère qu'on va mettre la main sur le kidnapper, celui qui a enlevé Cédrica Provencher. Je sais pas, moi, ça viendrait, je pense, naturellement. C'est de l'histoire ancienne. C'est une fillette de 9 ans, on ne sait pas ce qui est devenu de son corps. On ne sait pas ce qui s'est passé le 31 juillet 2007. Et puis, lui, c'est de l'histoire ancienne. Il reste à Trois-Rivières et, comme je vous le disais un peu au début de l'émission, tous les gens de Trois-Rivières se sentent concernés par cette affaire. Il y a eu des milliers de volontaires pour fouiller les bois, fouiller les terrains pour trouver une trace de Cédrica Provencher. Et lui semble être l'un des rares individus dans Trois-Rivières à, dans le fond, considérer ça comme de l'histoire ancienne. C'est assez particulier. Mais encore une fois, tout ce que l'on peut dire sur Jonathan Bété à date, et quand on voit ça en tant qu'observateur extérieur de l'affaire, bien entendu, ne permet pas de l'accuser. Ça ne fait pas de lui un coupable. Et ça, c'est très important. Hein. On va revenir un peu sur les derniers mois. Parce que dans les derniers mois, il y a eu, je pense, plusieurs événements qui peuvent donner de l'espoir dans le développement de Cédrica Provencher, de l'affaire Cédrica Provencher. On va revenir d'abord au mois de décembre, où des promeneurs tombent sur des ossements à proximité de Trois-Rivières, dans la forêt de Saint-Maurice. Et évidemment, on dépêche des enquêteurs. D'abord, est-ce que ce sont des ossements humains ou pas? A priori, il y avait très peu de doutes. Je pense qu'ils ont mis rapidement la main sur le crâne de Cédrica Provencher. Puis un crâne humain, c'est un crâne humain. C'est autant on peut faire la confusion quand on tombe sur un fémur ou un os de je sais pas moi... des côtes, est-ce que c'est vraiment humain ou est-ce que c'est animal, autant un crâne humain, ça reste un crâne humain. On ne peut pas le confondre avec le crâne d'un chien, par exemple. Après, maintenant, il y avait l'étude ADN de ce crâne et la Sûreté du Québec donc, a révélé quelques jours plus tard qu'il s'agissait bien des ossements de Cédrica Provencher. Des fouilles ont continué. Bien qu'on était en mois de décembre, il y avait assez peu de neige, donc il était facile pour la Sûreté du Québec de ratisser la zone. Et puis, d'après le porte-parole de la Sûreté du Québec, donc à cette époque, il se montrait satisfait des recherches qui avaient été effectuées par les enquêteurs. On n'entend plus trop parler. Et arrive le printemps. Au printemps où, cette fois, la Sûreté du Québec, avec une quarantaine d'enquêteurs, d'agents en tout cas, ratisse une zone du boisé de Saint-Maurice, toujours dans le même secteur, mais cette fois de l'autre côté de l'autoroute 40. Ce qui a suscité quelques interrogations. Les journalistes ont d'ailleurs demandé au porte-parole de la Sûreté du Québec, mais comment ça se fait que vous fouillez dans une zone où les ossements n'ont pas été retrouvés, mais de l'autre côté de l'autoroute 40, et la Sûreté du Québec de dire que les deux fouilles n'ont pas de lien entre eux. On parle bien de la même affaire, Cédrica Provencher, mais dans le fond, les premières fouilles reliées au reste de Cédrica ont été concluantes, et que cette deuxième fouille qui a eu lieu au mois de juin concerne une autre information. Donc, a priori, on en déduit que la SQ a eu des informations entre-temps, peut-être depuis la découverte des restes de Cédrica, et que, dans le fond, ça s'est orienté vers l'autre côté de l'autoroute 40. Ce qui était aussi intéressant, c'est que, d'après Claude Poirier, il s'agissait de ratisser la zone sur 3 ou 4 jours. Et que, dans le fond, les enquêteurs ne sont restés que 4 heures. Et sur les images des médias, on voit clairement des agents de la Sûreté du Québec revenir de la zone de fouille avec des sacs de preuves. Donc il y a vraiment eu des scellés, il y a vraiment eu des choses qui ont été trouvées sur place. Bon, ça ne veut pas dire que c'est forcément lié à l'affaire Cédrica Provencher, mais c'est intéressant. Et je me souviens que quelques jours après, toujours Claude Poirier nous disait « attention ». D'après ce que je sais, des développements vont avoir lieu prochainement dans l'affaire Cédrica Provencher. Et il se trouve que lundi dernier, le témoin d'importance numéro 1, puis on peut le dire entre nous, c'est le seul, a été interpellé sur son lieu de travail. Donc lundi à Trois-Rivières, c'est assez étonnant. On a vu une affaire qui avait tendance à s'essouffler, en tout cas c'est le sentiment que ça nous laissait. Une affaire qui s'essoufflait, il n'y avait pas de nouvelles. Tout d'un coup on trouve les restes de Cédrica, ensuite... Il y a des fouilles qui sont opérées non pas à proximité des lieux où les restes ont été trouvés, et puis d'après le porte-parole de la Sûreté du Québec, ça n'a pas de lien avec les restes de Cédrica. Et puis l'arrestation de Jonathan Bété le jour de l'anniversaire de Cédrica Provencher. Il y en a qui parlent de coïncidence, et c'est vrai que ça pourrait en être une. Mais quand on parle des agents de la Sûreté du Québec, ce sont des gens qui ont été très impliqués dans l'affaire de Cédrica Provencher, qui ont été très près de la famille de Cédrica, que ce soit les parents, le grand-père qui a été très impliqué également. La symbolique est importante. C'est vrai que ça peut être une coïncidence, mais... Très sérieusement, j'y crois absolument pas. J'y crois pas une seule seconde. Je suis sûr que bien des enquêteurs de la Sûreté du Québec ont une photo de Cédrica avec eux, tout le temps, en permanence, et qu'ils n'oublient pas cette affaire. Il y a des enquêteurs qui enquêtent toujours sur Cédrica Provencher, plus que jamais, d'ailleurs. Et a priori, de ce que l'on sait, même si ce sont des enquêteurs reliés à la pornographie juvénile qui ont arrêté Jonathan Bettey, il se trouve que lorsqu'il a été interrogé, des enquêteurs de l'affaire Cédric Aprovencher étaient également présents. C'est à mettre encore au conditionnel, mais si le témoin d'intérêt d'une affaire, le principal témoin d'intérêt d'une affaire est arrêté, je trouve ça normal que les enquêteurs de la dite affaire soient un minimum impliqués dans l'interrogatoire du suspect. Il y a deux possibilités maintenant que je vois. La première possibilité, c'est que l'arrestation de Jonathan Bettey a été faite par dépit, dans le fond. Dans le sens que la police n'arrive toujours pas à faire de lien clair entre l'affaire Provencher et puis Jonathan Bettey, à part le fait qu'il était propriétaire d'une Acura rouge, exactement du même modèle que la voiture qui a été repérée sur les lieux. N'arrive pas à faire de lien, la découverte du corps n'a rien donné, la fouille qui a été faite au mois de juin n'ont pas permis d'établir également de lien avec l'individu, il refuse de collaborer et c'est son droit, il refuse de faire le polygraphe et c'est son droit, il le coince sur autre chose, par dépit. Ça serait la première possibilité, et puis la possibilité qui serait dans le fond une très mauvaise nouvelle. La deuxième possibilité, c'est que là, les enquêteurs ont avancé. Mais là, ils veulent encore en rajouter. Ils veulent épaissir le dossier. Ils ont des faits, ils ont des preuves, mais c'est pas ça qui est suffisant. Vous le savez, ce qu'il faut, c'est suffisamment de preuves, suffisamment de faits, suffisamment d'éléments pour convaincre un jury. C'est ça qui est important. Si vous arrivez avec des débuts de preuves, avec de fortes présomptions, avec même quelques éléments qui peuvent être très intéressants, puis vous vous dites « Ah, c'est clair, tu sais, ça s'emboîte ». Mais si vous vous trouvez en face d'un avocat de la défense qui est habile et qui est capable de semer le doute dans la tête des jurés, vous avez perdu. Puis c'est terminé. Vous ne pouvez plus rejuger la personne pour les mêmes faits. Vous le savez. Donc, il faut y aller avec les bons indices, avec un dossier très complet pour sortir de là en vous disant, c'est certain, le jury n'aura pas le choix d'aller dans le sens de l'accusation. Donc, si ce n'est pas fait, c'est que le dossier manque encore de contenu, ça prend encore quelques preuves. Comme dirait Poirier, bien, on met de la chaleur sur le suspect numéro 1, on met beaucoup de pression sur lui, et c'est sûr que, et je pense que vous serez d'accord avec moi, je préfère être à ma place qu'à la sienne en ce moment. L'étau se resserre, même si, comme je vous le disais, tout le monde à Trois-Rivières connaissait Jonathan Bettey, soit pour l'avoir croisé, soit de nom, soit de réputation. Là, il peut plus mettre les pieds dans un McDo ou un Tim Hortons de toute la province de Québec. Là. C'est certain qu'il sera reconnu par tout le monde et par tous. Donc là, moi je pense, je reste optimiste, que la Sûreté du Québec, que les enquêteurs veulent mettre de la pression sur lui pour que, dans le fond, il commette l'erreur ou qu'il finisse par, je l'espère, par venir collaborer pleinement avec les enquêteurs et dire « Ok, allez-y, je demande un interrogatoire polygraphique. » ce qui serait normal, s'il n'a vraiment rien fait, s'il n'a aucun lien avec l'affaire Cédric Aprovencher, qu'il le fasse. Qu'il le fasse. Personnellement, et peut-être encore une fois que je suis mal fait, mais si j'étais suspect dans cette affaire, c'est clair. Je dirais aux enquêteurs, prenez les moyens qu'il faut. Je veux bien passer 1, 2, 3 tests polygraphiques s'il le faut. Prenez-moi mon ADN, mes empreintes, tout ce que vous voulez. Je veux le faire, je veux être innocenté. S'il a vraiment rien à voir avec cette affaire, c'est de son intérêt de collaborer à 100%, comme les autres propriétaires d'Acura Rouge qui sont passés par là. Et eux aussi, ils devaient être nerveux. Eux aussi, ils devaient avoir peur de faire un faux positif, par exemple, au polygraphe. Mais les spécialistes qui manipulent les polygraphes connaissent leur job. Ils le savent. Quelqu'un de normal et nerveux dans lors d'un interrogatoire polygraphique. Donc, s'il avait encore des doutes, je pense que maintenant, il peut y aller, il peut collaborer pleinement à cette affaire. S'il ne collabore pas, encore une fois, ça ne fait pas de lui un coupable, mais son comportement reste suspect. Et là, ça ne s'arrange pas. Je vous parlais du père de Jonathan Bété, André Bété, tantôt. Encore une fois, c'est Claude Poirier qui en avait parlé il y a quelques semaines à la radio. Et lui, avec un caméraman, il avait filmé Jonathan Bété sortant des emballages Bété. Et il l'avait filmé avec son père, puis ils étaient en grande conversation. Puis Claude Poirier nous dit qu'ils ont fait appel à quelqu'un qui sait lire sur les lèvres, puisqu'il n'avait pas de micro parabolique, apparemment. Il n'avait pas placé non plus de micro sur les individus. Et donc, ils ont fait appel à quelqu'un qui sait lire sur les lèvres. Et d'après Claude Poirier, ce qui s'est dit entre André Bété, donc le père, et son fils Jonathan, auraient a priori un lien avec l'affaire Provencher. C'est très gros hein, quand on y pense. De ce que je comprends, la vidéo a été donnée aux enquêteurs. Ça doit être dans la pile de toutes les preuves qui s'accumulent dans le dossier, qui soient en lien ou pas avec Jonathan Bété. C'est pas ça qui est important. C'est une grosse affaire. Il doit avoir des milliers de preuves d'enregistrement, d'interrogatoires. Donc ça s'ajoute. Claude Poirier pouvait pas y aller plus précisément, mais c'est intéressant. C'est des choses. C'est sûr que Jonathan Bété étant un témoin d'importance dans l'affaire de Cédric Provencher, il est clair qu'il était sous surveillance. Une voiture de la Sûreté du Québec était régulièrement devant son domicile. Il a sans doute fait l'objet de surveillance électronique, écoute téléphonique, peut-être des pauses de micro, on n'en sait rien. Quand on est un pédophile, puisque c'est ça qu'il est a priori, puisqu'il avait des fichiers de pornographie juvénile chez lui. Quand on est un pédophile, on a du mal. C'est un état dans lequel on replonge. C'est-à-dire qu'un pédophile ne s'arrête pas d'être pédophile par la simple volonté. Et malgré le fait que quand même en 2009... il était sous le projecteur de la Sûreté du Québec en 2009, puisque l'enquête, les accusations le montrent bien mardi. Entre novembre 2009 et septembre 2013, il avait des fichiers de pornographie juvénile. Il avait accès, en tout cas, à des fichiers de pornographie juvénile. Donc, tu sais, on se dit que souvent, mettons, quelqu'un qui a commis un vol de banque et qui est suspecté, s'il voit que la police s'intéresse à lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire low profile, il va essayer de se terrer quelque part, de se faire complètement oublier, mais surtout de ne rien faire de suspect. Dans le cas d'un pédophile, d'un prédateur sexuel en général, ce sont des gens qui sont incapables de se contrôler. Donc, il a dû se dire peut-être pendant quelques jours « Oh, je vais faire attention parce que la Sûreté du Québec s'intéresse à moi ». Peut-être que les gens de sa famille lui ont aussi conseillé de la fermer et de faire attention à ce qu'il fait. Mais, a priori, il n'a pas été capable, puisqu'il a été accusé de faits par rapport à la pornographie juvénile. D'ailleurs, peut-être qu'il a, il a joué au plus fin, puisque de ce que l'on sait, ça serait peut-être, il aurait peut-être utilisé des serveurs sur le cloud. Hein, peut-être qu'il se serait dit, tant que je mets pas ces fichiers sur mes ordinateurs, je ne serai pas suspecté. Ça aussi, c'est à mettre au conditionnel. C'est quelques informations qui circulent. D'après aussi d'autres informations, il comptait aussi quitter le Québec par la Suisse. Et a priori, ça ne serait pas à cause de ça que la police aurait agi, parce qu'il y aurait peut-être aussi un facteur de temps qui était important dans ce temps-là. C'est-à-dire que peut-être que la Sûreté du Québec avait peur qu'il fuit le pays et qu'il fallait absolument mettre la main au collet pour lui confisquer son passeport. Ça fait partie des possibilités. Malgré tout, s'il était sous surveillance, imaginez-vous bien que si on le voyait s'en aller vers l'aéroport de Dorval ou l'aéroport de Québec, la police allait l'intercepter avant ça. On peut revenir aussi sur la journée du 31 juillet 2007 où Jonathan Bété est incapable de fournir une explication dans son emploi du temps. Il y aurait un trou de 2 heures, semble-t-il. 2 heures, c'est, je vous le dis, là, pour ceux qui en doutent, largement suffisant pour commettre un enlèvement et un crime d'une enfant de 9 ans. Quand on regarde bien la situation, il y a à peu près 16 kilomètres qui séparent le lieu de la disparition de Cédric Aprovencher et l'endroit où le corps a été découvert. 16 kilomètres, ça prend à peu près moins d'un quart d'heure, puisqu'on passe par l'autoroute 40, un bout de l'autoroute 40, moins d'un quart d'heure pour se rendre sur les lieux. Il y a après 500 mètres dans un chemin à proximité et 300 mètres dans la forêt, le bois dense, la forêt dense. Donc dans le fond, 2 heures pour faire un quart d'heure de route, donc aller-retour, disons une demi-heure à peu près pour revenir à Trois-Rivières. Une demi-heure, il reste 1h30 donc pour enlever la fille puis se débarrasser du corps. C'est assez lugubre comme description, mais disons que il n'y a rien pour aider Jonathan Bété, donc il aurait encore une fois tout intérêt à collaborer avec les enquêteurs. Je vais reparler aussi de Marc Bellemare. Marc Bellemare qui a été ancien ministre libéral, ancien ministre de la justice, bon il n'est pas resté longtemps ministre de la justice, mais qui est surtout connu pour être un avocat de la région de Québec. Lui, il a collaboré également avec Stéphane, je vais retrouver son nom. Excusez-moi, il a réalisé le documentaire sur Cédric Aprovencher. J'y reviendrai, je retrouve plus du tout son nom. Stéphane Parent, voilà, ça y est, je savais que je l'avais quelque part. Stéphane Parent qui est en cours de tournage sur un documentaire par rapport à l'enlèvement de Cédric Aprovencher. Au départ, il voulait faire un documentaire pour essayer d'avoir des nouvelles pistes pour retrouver Cédric A dans le fond. Et puis, entre-temps, évidemment, on a retrouvé les ossements, donc le documentaire change un peu d'axe. Hein, c'est plutôt que d'essayer de retrouver Cédric A. Maintenant, on veut retrouver l'auteur de son meurtre. Et que ça soit Marc Bellemare, donc, qui a collaboré avec Stéphane Parent et Stéphane Parent lui-même, eux, ils avaient une théorie par rapport à un individu qu'on appelle le logeur, qui reste à proximité de Trois-Rivières, si mes souvenirs sont bons. Et le logeur, dans le fond, est quelqu'un qui a déjà été condamné dans une affaire de pédophilie. Puis pour eux, c'était un peu... l'individu devrait aussi faire partie des suspects. J'imagine que la police a enquêté également sur... j'ai oublié son nom, hein, sur le logeur, et qu'ils l'ont écarté. Une enquête policière, là, il faut savoir, là, c'est comme une gratte, une énorme gratte. Mettons, vous êtes sur l'autoroute, là, et puis il a neigé, et puis là, la Sûreté du Québec passe avec la gratte et prend tout le monde, dans le fond, dans l'entonnoir, dans un grand entonnoir, et passe toutes les preuves, tous les alibis, tous les individus qui étaient dans le coin passent au crible. C'est un travail titanesque, surtout au début d'une enquête, pour, dans le fond, écarter les gens. On ne veut pas nécessairement trouver le coupable. Ben, évidemment, oui, on veut trouver le coupable, mais en fait, on y va surtout par élimination. Et donc, dans le fond, la grade passe et ça devient de plus en plus un entonnoir. Et l'entonnoir, évidemment, comme le dit bien cette image, bien, ça se rétrécit de plus en plus. Et à un moment donné, bien, on arrive à focusser sur les principaux suspects, sur les gens qui n'ont, par exemple, qui ne sont pas parvenus à donner d'alibi solide, qui ont un mobile, qui étaient sur les lieux. Mais on n'arrive pas nécessairement à faire le lien avec la victime, etc. etc. Jonathan Bété est la seule personne que les enquêteurs ne sont pas parvenus à écarter de la piste. Ça encore, c'est autre chose qui vient en complément de tout ce que j'ai pu dire jusqu'à présent, qui ne pourrait qu'inciter la personne, Jonathan Bété, a collaboré à 100% avec les enquêteurs. S'il est vraiment innocent, il a tout intérêt à le faire. Mais il ne le fait pas. On dit aussi qu'il a des problèmes de jeu. Bon, on sait qu'il a joué, au poker. Il avait des connaissances, des amis, je ne sais pas comment les... en tout cas, des gens avec qui il jouait régulièrement, jusqu'à la découverte des ossements. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur l'affaire? Je pense qu'on a fait le tour, mais en tout cas, je voulais revenir pour finir sur la présomption d'innocence. Je me suis fait reprocher par la bande de parler de Jonathan Bété en faisant fi de la présomption d'innocence. Déjà, je voudrais revenir sur une notion de droit qui est essentielle. La présomption d'innocence ne concerne que le tribunal. C'est-à-dire que si un individu qui a été jugé se dit que, dans le fond, ou plutôt ses avocats, se disent que la présomption d'innocence n'a pas été respectée dans l'enceinte du tribunal, eh bien, ça peut être un motif pour aller en appel et de dire, voilà, en première instance, la présomption d'innocence de l'accusé n'a pas été reconnue. Comment ça peut intervenir? Par exemple, en montrant dès le départ que, dans le fond, on ne parlait pas d'un accusé, mais d'un coupable, par exemple. Il y a plusieurs façons d'y arriver. À l'extérieur du tribunal, je vous le dis froidement, la présomption d'innocence n'existe pas. Il n'y a personne... Citez-moi une seule personne qu'on a accusée, qu'on a arrêtée, qu'on a condamnée pour atteinte à la présomption d'innocence. Ça n'existe pas, c'est une notion qui n'existe pas. Par contre, la diffamation, elle existe. Si, par exemple, je dis qu'un individu X est coupable dans une affaire Y, alors que la personne n'est pas accusée et encore moins donc jugée, ça peut être de la diffamation. Mais personne ne va dire que c'est une atteinte à la présomption d'innocence. La présomption d'innocence, ça ne fait pas de nous des gens qui ne pensons plus, qui n'avons plus d'opinion. On a une opinion sur l'affaire, on a une opinion, on peut avoir une opinion d'ailleurs sur tout, ça fait partie de notre droit, ça fait aussi partie du droit d'expression, de la liberté d'expression plutôt. Mais par contre, il faut juste faire attention lorsqu'on s'exprime en public ou dans les médias sur le fait que effectivement, tant que la personne n'est pas jugée, eh bien, est supposée être innocent. Mais c'est quelque chose qui coule de source. Dans l'affaire Guy Turcotte, tout le monde avait un avis sur la question. Le bon docteur Turcotte qui avait assassiné ses deux enfants à coups de couteau, tout le monde au Québec avait un avis, puis parfois le donner coupable avant même d'être jugé. Ça fait partie de la liberté d'expression, cela fait partie du débat, même aussi de la rumeur, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est comme ça, on fait avec. Je vous le répète, la présomption d'innocence, c'est la garantie d'un procès équitable à l'intérieur de la Cour de justice, et non pas à l'extérieur. « Après un sujet particulièrement lourd, on va parler de quelque chose de beaucoup, 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 beaucoup plus léger. Je vais vous parler de Nathalie Petrovski. Nathalie Petrovski, chroniqueuse à la presse, qui nous a fendu d'un texte la semaine dernière concernant l'apparition de Justin Trudeau en super-héros dans une publication de Marvel. Et il est dit que, dans le fond, Marvel utilise l'image de Justin Trudeau et parce qu'il fait, pour l'image du Canada, ce qu'il fait pour l'image du Canada est phénoménal et rafraîchissant. Ça, je cite Petrovski. Grâce à lui, ce pays jugé gentil mais ennuyeux est devenu à l'international un pays symbole de coolitude et de progressisme. Grâce à Justin, il est désormais mal vu de rire du Canada ou de le ridiculiser, surtout avec un clown comme Trump qui se présente à la présidence de l'autre côté de la frontière. C'est Nathalie Petrovski, c'est loin d'être une imbécile. Je suis pas toujours d'accord, même je suis rarement d'accord avec elle, mais je reconnais quand même que elle est intelligente. Mais sortir des choses comme ça, j'avoue que j'ai beaucoup de mal. En quoi l'image du Canada à l'international s'améliore? On parle d'un Premier ministre, qui passe son temps à faire des selfies, qui passe pour quelqu'un d'assez naïf, qui n'a pas, qui manque d'autorité dans certains dossiers qui sont difficiles, qui manque de poigne. Il a pour lui un physique, de beaux cheveux. Il a pour lui un nom, qui est le nom de son père. Il a pour lui le fait que, dans le fond, oui, il passe bien dans les médias. Mais, et je l'ai déjà dit à cette antenne, ce que l'on veut, c'est un Premier ministre qui gouverne, non pas d'une figure de mode. Et j'étais assez impressionné, assez atterré, dans le fond, de voir cette chronique de Petrovski qui dépeint Justin Trudeau comme... quelqu'un de génial. Tu sais, je cite encore Petrovski. Après Justin, vedette people et roi des selfies, Justin, rockstar qui s'amène en veste de cuir au concert d'adieu de Tragically Hip, en clamant que la musique du groupe fut la trame sonore de sa vie, Justin, champion des gays dans tous les défilés de la fierté au pays et Justin féministe, voici maintenant Justin super-héros de BD. Encore une fois, et ça aussi, je l'ai déjà dit, puis je vais le redire, une chroniqueuse supposée indépendante, supposée intelligente, ne parle pas de la contradiction Trudeau, de Justin Trudeau, qui va effectivement au défilé de la fierté gay, qui va effectivement, qui clame effectivement son féminisme, mais qui d'un autre côté vend des armes à l'Arabie Saoudite qui ne permet même pas aux femmes de conduire, ou qui ne permettait pas aux femmes de conduire, qui ne leur permet pas de voter, qui est un régime particulièrement anti-féministe, qui se présente dans des mosquées, ces mêmes mosquées où certains imams demandent l'élimination des homosexuels. Je comprends pas. On dirait que tout ce dont Justin Trudeau fait mal, on l'éclipse complètement. Avec l'aide des médias, on pourrait comprendre quand, si cela venait du Parti libéral du Canada ou de ses admirateurs ou de ses lieutenants, de ses conseillers. Mais venant de journalistes, je trouve ça aberrant. On peut évidemment lui trouver des bons côtés, on peut l'aimer, on peut être d'accord avec ce qu'il fait. Mais à un moment donné, il faut aussi être réaliste et puis montrer ses contradictions. Encore une fois, ce n'est pas le cas. C'était donc Nathalie Petrovski qui nous parle de son Justin Trudeau.
Mais l'année prochaine, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver l'année prochaine avec ce foutu réchauffement climatique. C'est quand même pas normal qu'on ait des températures comme on a là. Hein?
Écoute, ça réchauffe tellement le climatique là, que c'est rendu que le Brésil va être rendu au Canada bientôt puis qu'on va danser la samba à la soirée canadienne.
Non, mais c'est parce qu'on ne peut rien virer de bord. Donc, il faut vivre avec ça ou s'adapter puis ou trouver des moyens.
Oui, l'autre problème, par exemple, mon voisin, il fait des prunes. Hein? Vous savez, prunes Mont-Royal. Ils sont une semaine et demie en avance sur la récolte cette année. Les noyaux se décollent déjà dans les prunes. Puis s'ils ne cueillent pas, c'est foutu. Hein? Ouais. Vous ne pouvez plus les commercialiser. Ils deviennent mal comme à...
Vous faites penser.
Alors là, il faut trouver la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, ça paraît pas, mais une semaine et demie de décalage pour trouver beaucoup de monde pour de la main-d'œuvre, c'est compliqué.
Vous faites penser qu'il va y avoir à Kamouraska quelque chose dans la prune. Laurent Boursier, là, M. Martin m'a appelé.
M. Martin, là-bas.
Je devais annoncer quelque chose, mais je pense que j'ai oublié ou bien je ne l'ai pas.
La Damas, c'est une prune beaucoup plus tard.
Non, mais ils ont une activité là, dans le bout avec son fils, tout ça.
Ça réchauffe tellement le climatique. Hein. Quand on entend Joël Le Bigot nous dire que bientôt le Canada, ça va être comme le Brésil, c'est rempli d'arguments très scientifiques, comme toujours à la radio de Radio-Canada, où évidemment, on fait totalement l'impasse sur l'hiver qui parfois sont très froids, comme il y a 2 ans ici au Canada. On est encore loin de danser la samba sur les rives du Saint-Laurent, croyez-moi. Et puis, c'est incroyable. Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu d'extrait de Radio-Canada, mais c'est toujours aussi confus. Joël Le Bigot qui doit annoncer un événement quelque part, mais il ne sait plus lequel. C'est vraiment très organisé, mais ne vous inquiétez pas, chers amis, on donne toujours plus $1 milliard par année à cette radio-télévision que plus personne n'écoute. Le 10e numéro du Radioblog de Québec Presse touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, un sujet très lourd, hein, puisque l'essentiel de cette émission a été consacré à l'événement qui a secoué le Québec ces derniers jours. On y reviendra si évidemment il y a des développements. En attendant, vous pouvez me rejoindre par courriel si vous voulez m'envoyer vos suggestions, vos commentaires, vos remarques, vos critiques également. Vous pouvez donc également aussi vos fichiers audio hein, si vous voulez participer plus activement au Radioblog. C'est à l'adresse suivante, podcast@commercialquebecpresse.com. Vous pouvez également voter et laisser vos commentaires sur le podcast dans la rubrique iTunes Music Store sur iTunes. Donc, ça me fait plaisir de lire vos commentaires. Vous pouvez nous suivre sur Twitter à l'adresse @QCPresse, également sur la page Facebook. Et si vous voulez lire mon article sur l'affaire Jonathan Bété, sur québecpresse.com. On se retrouve donc la semaine prochaine avec d'autres actualités. En attendant, comme je vous l'ai annoncé en début de show, je voudrais rendre hommage à Bob Bissonnette, de son vrai nom Roberto Bissonnette, ancien joueur de hockey, entre autres dans la Ligue junior majeure du Québec, mais qui était quelqu'un de très très apprécié. Et quand on voit tous les témoignages qui ressortent sur Internet, sur les réseaux sociaux et ailleurs, on peut voir que c'est quelqu'un qui était vraiment très aimé. Bob Bissonnette, c'est quelqu'un qui était également devenu un chanteur, qui avait sorti 3 albums. Et on va écouter tout de suite « Ils sont toutes folles », qui était de son premier album, si mes souvenirs sont bons. Ça va un peu en contresens du politiquement correct. Il faut voir ça d'abord avec humour. Faut pas voir ça trop sérieusement. En tout cas, moi je l'ai trouvé ben drôle, cette toune-là. Donc je vous laisse là-dessus sur Bob Bissonnette et nous autres, ben on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Bye bye.
Mes chères demoiselles, prenez pas ça personnel, mais dans les prochains instants, j'allais peut-être trouver ça choquant, voire même un peu insultant, mais prenez donc ça en riant. Pas que je vous trouve pas brillante, vous êtes très intelligente, et non, je ne suis pas gay, j'aime les dounes, soyez assurés, mais malgré leur différence, les femmes ont toutes une ressemblance. sont toutes folles. Baisse le bain de toilette, oublie pas de serrer les dents, le frigidaire, oublie pas sa fête, sinon watch out le calvaire, il a rendu toutes les amours, puis moi, ils vont me rendre fou. Ils partent des associations de femmes frustrées, pendant que des filles comme Priscilla se montrent les boules à Love Story. Ils changent de poste de TV pendant la finale, la coupe grise. Claire, tu vois plus rien, tu penses qu'elle est parfaite. Attention, ça s'en vient, elle va t'arriver de quoi. Qu'y a pas d'allure, ça c'est sûr. Crois-moi, je te le jure. Ils sont toutes folles, non, y'a pas d'exception. J'ai dit aucune exception, ni même la belle Manon. Sophie, Marie, Julie, Tania, Sonia, Vanessa, Karine, Sandrine, pis la grosse Caroline. Ils sont toutes folles. Les brins, j'suis plus capable. Les syndromes prémenstruels, un fléau éternel. Fais ci, fais ça, amène-moi des fleurs. Mes postes sortent là, ils font les passes des Pécosses. Ils nous tiennent par les gosses. Avant de lui donner la bise, quand tu te maries à l'église, pour le meilleur et pour le pire, le curé devrait plutôt dire: j'espère que c'est toi qui as la moins pire. Là, passe à radio, va avoir un comité sur le dos, une commission d'enquête pour prouver que je suis fou dans la tête, que je suis un sexiste, un antiféministe, puis qu'on devrait faire blablabla.